Bonsoir à tous pour cette nouvelle rencontre de Livres en Dialogue, donc un programme dédié aux parutions des éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Donc on est ici pour parler d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Penser la traduction » qui a été dirigé par Francisca Humphreys, ici présente, avec une série de contributeurs parmi lesquels M. Jürgen Ritte, également à mes côtés. Donc ce livre a pour origine le programme Penser en langue, In Sprachen denken. Il a été porté par le programme de traduction franco-allemand de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Donc il rassemble les contributions de traducteurs et traductrices investis dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il est le fruit de la rencontre, d'une série de rencontres organisées entre 2015 et 2020 pour discuter des problèmes liés à l'exercice de la traduction. Donc, il y a un site internet qui s'appelle penserenlangue.com sur lequel on peut retrouver les travaux accomplis pendant cette période. Voilà, donc maintenant je vais présenter mes interlocuteurs. Donc, à ma gauche, Francisca Humphreys. Vous êtes responsable du programme culturel européen European Netzwerk Deutsch au Goethe-Institut de Bruxelles. Vous avez fait des études de littérature générale et comparée, d'histoire de l'art, de lettres modernes à Munich et Paris. Vous avez traduit plusieurs ouvrages de sciences humaines du français et publié plusieurs ouvrages sur la théorie de la traduction et de la littérature, au croisement de la philologie, de la théorie des médias et de la psychanalyse. Donc, votre dernier ouvrage porte sur Michel Foucault et il a paru chez Cadmus en 2016. Jürgen Ritte, vous êtes professeur de littérature allemande et d'études interculturelles à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous vous intéressez aux relations culturelles franco-allemandes au XIXe et XXe siècle, ainsi qu'à la traduction littéraire dans ces deux langues. Vous avez été vice-président d'Atlas, l'association des traducteurs qui organisent chaque année les assises de la traduction littéraire à Arles. Vous présidez d'ailleurs le Collège international des traducteurs littéraires à Arles également, et vous êtes bien sûr traducteur littéraire. Vous avez été récompensé à plusieurs reprises, notamment pour le prix Eugène Hemley en 2013. Et votre dernier ouvrage porte sur Georges Arthur Goldschmidt, qui est apparu chez Hermann en 2019. Donc, pensez la traduction. Moi, j'aimerais commencer cet entretien par une question assez ouverte, finalement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il existe une définition de la traduction qui fasse consensus? Puisque il y a deux grandes thématiques, deux grandes thèses qui s'opposent. D'une part, la question de la traductibilité absolue, à savoir, peu importe la langue, on peut tout dire et tout expliquer, tout traduire. Et l'opposé extrême, c'est l'intraduisibilité fondamentale, à savoir que chaque langue existe avec ses spécificités et on ne peut, par définition, pas arriver à retranscrire dans d'autres langues des concepts qui sont propres à chaque langue. Voilà. Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup déjà pour l'invitation, pour l'accueil des éditions de la Message qui nous accueille ici et qui a donc réalisé ce très beau livre qui est donc un ouvrage collectif. Et je vous remercie de cette très belle présentation et introduction qui me permet de revenir sur le fait que cet ouvrage, les contributions de cet ouvrage sont comme une sorte de résumé de 5 années de travail. Donc, j'ai choisi certains, bien sûr qu'il y aurait plus, parce qu'il y avait beaucoup de contributions durant ces années. C'était comme une petite synthèse de certains trames qui se sont tissées lors de ces rencontres. Et je suis donc particulièrement heureuse et honorée déjà de la présence de Jürgen qui est venu ce soir discuter avec moi, mais aussi d'autres personnes qui ont contribué à l'ouvrage et qui sont là maintenant, notamment Catherine Heidenreich qui était lectrice de cet ouvrage et aussi contributrice aux rencontres, Christophe Luquez qui a traduit dans l'ouvrage, Barbara Fontaine qui n'a pas contribué mais qui était là quand même lors des rencontres. Et avec mes yeux un peu aveugles, je crois que je n'ai personne oublié, mais je veux quand même aussi dire que Solange Harbert, par exemple, qui n'est pas dans ce livre, mais qui est venue parler des fonds des archives, et je voudrais peut-être revenir à la fin là-dessus, de Tophofen, et qui sera une contribution dans un autre ouvrage qui fait un peu... En allemand, on dit Geschwister, c'est le frère ou la sœur livre de ce livre qui va paraître prochainement sur les archives de la traduction, qui est le développement de celui-ci. Donc c'est quand même une rencontre aussi ce soir qui fait suite logique aux rencontres que nous avons essayé d'organiser durant ces dernières années autour de ces questions que vous posez, et donc notamment celle-là. Est-ce qu'il y a une définition qui ferait consensus de la traduction? Je pense que non. Probablement qu'il y en a autant d'avis que traducteurs et traductrices aujourd'hui dans le public. Bien sûr que non, mais les deux positions que vous nommez, qui sont deux positions extrêmes, montrent très bien le champ dans lequel se situe la question, qu'on pourrait poser de différentes manières. C'est-à-dire, on pourrait se dire, il faudrait peut-être tout d'abord se poser la question, ce qu'on veut traduire, ce qu'on entend par la question de la traductibilité. Bien sûr, si on le pense comme ça, c'est une question qui vise un peu la signification ou la communication. Bien sûr qu'on peut, d'une certaine manière, tout dire dans toutes les langues ou même dans une langue. C'est possible, d'une certaine manière, mais bien sûr qu'on perd toujours quelque chose. Après, on pourrait penser la traduction comme quelque chose qui remédie à cette perte ou je ne veux pas penser la traduction par quelque chose qui serait défini par la perte, mais par quelque chose qui creuse cette perte pour en donner une richesse, pour montrer justement à quel point ce que se trouve entre ces langues crée en elle-même un tissu, une matière, où on peut trouver des métaphores multiples, qui serait comme le tiers ou une troisième matière, une troisième langue qui se situerait entre ces langues. C'était ça un peu le point de départ de tout ce travail qui s'est organisé après dans un livre, dans des chapitres pour montrer qu'on peut le penser par cette notion que vous allez évoquer tout à l'heure, donc du propre et du c'est le sien et l'autre, c'est-à-dire la langue maternelle et la langue autre, ou tout ce qu'on veut entendre par langue maternelle. On peut le questionner par une approche plus historique, c'est-à-dire bien sûr que dans la traduction, il y a toujours déjà une charge historique qui, bien sûr, serait également perdue par cette idée de la communication universelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transporte toujours déjà avec sa propre langue. Et finalement, donc, cette idée de la traduction en sciences humaines, parce que c'était ça aussi le point de départ, l'idée de ces rencontres et de ce livre était de questionner la traduction dans le champ des sciences humaines. C'était aussi lié un peu à l'histoire du projet, parce que c'était un projet que nous avons réalisé avec la Fondation Robert Bosch, qui a voulu réfléchir explicitement de cette question-là, se disant, à tort peut-être, mais quand même, qu'il y a déjà beaucoup de choses sur la traduction littéraire, pensant un peu sur les sciences humaines. Et bien sûr que, et c'est ça qui est dans votre question, les sciences humaines qui sont une pensée ou une élaboration théorique, à mon avis, et en tout cas je pense que le livre le dit d'une certaine manière, rejoignent toujours la littérature dans le sens qu'il faut une attention particulière, particulièrement importante sur le tissu lui-même qui fait penser, qui serait la langue. Et dès le moment où on se tourne vers cette langue, ne la voit pas seulement comme un véhicule ou un outil, on est dans le domaine du poétique ou du littéraire. Et c'est pour cela que dans ce livre, le livre a fait le choix ou le pari d'admettre aussi des positions clairement littéraires et des textes littéraires dans le livre qui précède les chapitres. Peut-être tu voudrais réfléchir à la question d'un autre point de vue.
Pardon, c'était déjà très complet, ce tour d'horizon. Le charme de ce livre, c'est justement qu'il y a aussi des écrivains qui parlent, des écrivains qui sont aussi traducteurs, donc il y a plusieurs approches. Et je pense que la réponse à la question que vous avez posée est une fonction de la personne ou la position de celui qui doit répondre. On peut toujours dire, faciliter la chose en disant, voilà, quelle question, les bibliothèques sont pleines de livres traduits. Donc, traduire, on peut. Donc, la question est très théorique. Est-ce qu'on peut rendre, est-ce que la, est-ce qu'on peut rendre exactement ce qu'on voit dans le livre d'original dans une langue d'arrivée ? Elle se pose là. Et donc ça devient une question très théorique. Un éditeur va vous dire, bien sûr, qu'on peut traduire. Un traducteur aussi, on peut, parce que c'est son gagne-pain. C'est des raisons, on est là très, on n'est pas crête, on est très dans le pratique, où on fait, du point de vue théorique, beaucoup de compromissions. Peut-être encore un peu plus en littérature qu'en sciences humaines, mais on va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Ça, c'est encore une autre question. Donc, je pense que la question... venant de la pratique, la question ne se pose pas vraiment, je trouve. Est-ce qu'elle est intraduisible ? Oui, si on part du fait que la traduction doit ressembler à 100% à l'original, ce qui est impossible. Donc là, on aura toujours une valeur asymptotique. On s'approche, mais c'est sans fin, puisqu'on retraduit, on retraduit, on retraduit, en pensant qu'on s'approche, on s'approche, et on actualise en quelque sorte. Mais si on pense autrement, et Francisca vient de le dire, si on pense la traduction autrement, comme ça a été fait il y a une vingtaine d'années, on la pense un peu comme ça, c'est-à-dire ne pas considérer la traduction dans la perspective de la perte, donc à partir de l'original, j'ai fait quelque chose en une autre langue, ce n'est pas la même chose, ça ne peut pas être la même chose, ça c'est évident, mais est-ce que c'est quelque chose qui vaut moins que l'original, ou est-ce que c'est quelque chose qui rajoute quelque chose à l'original ? Et moi, je pense que je suis assez tenté, assez séduit par l'idée avancée dans l'espace germanophone la première fois par un universitaire suisse, Peter Utz, qui a publié un livre qui s'appelle Anders gesagt, in other words, autrement dit. Donc il a fait un examen de quelques classiques allemands, de langue allemande, disons comme ça. Musil, Kafka, je ne sais plus qui est le troisième larron. Et donc il a comparé les différentes traductions en français et en anglais. Non pas dans la perspective de dire voilà, ça c'est pas fidèle, ça c'est pas bien, ça c'est moins bien, etc. Mais en s'interrogeant, qu'est-ce que ça apporte en plus ? Ça devient autre chose. C'est du Kafka, oui, mais c'est Kafka plus autre chose chaque fois, en anglais et en français. Et c'est ça la question qu'on peut poser dans la traduction. C'est à partir de là que la traduction s'insère dans une littérature, disons, nationale, et elle devient un livre, un corpus de cette littérature-là. Donc c'est un peu comme Valérie Larbaud l'a dit, il faudra un jour, non pas écrire des biographies des auteurs, mais des biographies des ouvrages, en voyant les ramifications de la littérature traduite. Et ça. C'est pour ça qu'on dit, et ce n'est pas tellement une plaisanterie, mais on dit très souvent que Shakespeare, c'est un auteur allemand.
Expliquez oui. Pourquoi, peut-être.
parce que il y a une activité de traduction autour de Shakespeare, en France aussi, mais je pense qu'en Allemagne, un peu plus numériquement déjà. Il y a certains sonnets de Shakespeare qui comptent encore 240 versions différentes de certains sonnets de Shakespeare. Et les pièces, ces grandes pièces de théâtre aussi. Le théâtre allemand s'est fait, c'est redéfini, c'est réinventé à partir de Shakespeare. Et sans Shakespeare, le théâtre allemand n'est plus pensable à partir d'un certain moment. Donc Shakespeare a été complètement intégré, l'héritage Shakespeare, à partir des traductions de Tieck et Schlegel, qui sont eux-mêmes des traducteurs, donc pas des moindres du romantisme allemand. Mais il y en avait d'autres après qui ont traduit. Voilà, donc je pense que si on le voit comme ça, ce n'est pas, quand on lit Schlegel-Tieck, c'est très sympathique, mais ce n'est pas vraiment le Shakespeare du XVIIe siècle. Quand on lit les traductions qui sont absolument admirables aujourd'hui de Frank Günther, récemment décédé, qui est un des très, très, très grands traducteurs, qui a été un des plus grands, à mon avis, que nous avons eu en Allemagne ces dernières décennies. Il a retraduit tout Shakespeare. Quand on voit ça, c'est absolument magnifique. C'est moderne. Ce n'est pas le XVIIe siècle, mais c'est quelque chose qu'il a rajouté. Et donc, sur ces traductions-là, se font très souvent des mises en scène modernes de Shakespeare au théâtre. Mais là, bon, je m'éloigne un tout petit peu de la chose, mais je veux renforcer un peu l'idée qu'a évoquée Francisca tout à l'heure. La traduction rajoute quelque chose. Ne pas l'avoir sous la perspective de la perte, mais du gain.
D'accord. Alors, effectivement, là, on a beaucoup parlé de l'aspect littéraire, hein, la littérature. En tant que vecteur, en tant que rôle central dans la circulation des idées, on peut peut-être revenir aussi sur l'impact de la traduction en sciences humaines et sociales, hein, qui était l'origine aussi du projet du livre sur lequel vous avez tous travaillé.
Non, mais bien sûr, quand on parle des sciences humaines, La première chose qu'on pense sont bien sûr les concepts, c'est-à-dire puisque la pensée se fait intuitivement d'abord par concept, on s'intéresse tout d'abord à la traduction des concepts. Et ça, déjà, c'est un exercice complexe qui pose beaucoup de problèmes et qui n'est pas non plus unanime. Et il y a ici des gens encore plus aptes à témoigner de cette difficulté de trouver donc le bon équivalent pour un concept. Mais là aussi, ça, quand même, c'est vrai, on va prendre ce soir probablement un pari un peu polémique, on va probablement peut-être trop rapprocher les deux domaines du littéraire et des sciences humaines, mais pour moi, c'est devenu tellement important, c'est peut-être pour moi personnellement un peu le résultat de ce travail, que ce sont deux exercices inséparables. Et peut-être que j'ai réfléchi pour préparer cette soirée encore une fois que pour moi, le début de la traduction, c'est de ma propre petite activité de traduction, était Michel Foucault et Louis Althusser, deux penseurs que je ne connaissais pas du tout, complètement naïfs. Je suis allée vraiment sans aucune idée claire sur qui était Louis Althusser dans les archives pour chercher les textes posthumes de Louis Althusser. C'était une demande ou un projet d'un éditeur que j'ai fait donc très jeune et vraiment sans aucune idée. Et c'est important, je crois, cette idée de, il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de concept. Et j'ai découvert donc ce tas de papiers que Louis Althusser avait donc écrit à l'hôpital psychiatrique après le meurtre de sa femme. Et l'idée, c'était de faire un livre sur le concept du matérialisme aléatoire, qui est donc un concept qu'il a introduit très tardivement dans son œuvre. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune opinion fixe sur la question si c'est un bon concept ou non, ou si ça a contribué au marxisme ou je ne sais pas quoi. Moi, j'étais tout simplement frappée par le fait que lisant les archives, lisant ces papiers et de les mettre en perspective avec les autres, donc on se trouve avec ce tas de papiers devant soi, sur une table, et on est complètement seul dans cette situation qui était quand même assez angoissante, à découvrir que les notions philosophiques qu'il choisit, comme la prise notamment, résonnent d'une manière très particulière et dans ce cas vraiment très striking, avec la manière dans laquelle il décrit le meurtre de sa femme, puisqu'il a étranglé. C'est le même champ sémantique. Et c'était vraiment une expérience, dans le sens fort du mot, dans laquelle on comprend qu'on ne peut pas séparer affect et pensée, écriture et vécu, que ce sont deux registres que je pense, bon là c'est vraiment un peu extrême, mais je crois que finalement, chaque penseur, dans chaque pensée, il y a ces nœuds affectif ou quelque chose dans un rapport très primordial à la langue, c'est fait. Et donc, a pris des expressions après intellectuelles, ils ont été travaillés, ils sont devenus théories. Dans le cas des littéraires, ce sont devenus des romans. Je crois que finalement, ce sont juste deux manières différentes de jongler ou de, je sais pas, de se débrouiller peut-être avec ce premier bain qu'on a pris dans la langue. La même chose pour Foucault, finalement, qui a un rapport quand même très étrange aussi à la langue et qui, finalement, écrit des fictions. C'est les mots et les choses, c'est un grand livre de fiction. Et si on traduit ça, encore une fois, en termes de transfert de savoir, pour ne pas complètement décevoir le public, parce qu'on a quand même aussi travaillé sérieusement sur l'épistémologie, les aspects épistémologiques de la question. Un exemple très intéressant est le cas de la médienthéorie, Friedrich Kittler. Je raconte ça souvent, mais c'est un exemple qui est important pour moi, que j'ai continué à travailler un peu. La relation entre Kittler et Foucault est très intéressante, notamment pour les concepts. Et là, encore une fois, on rejoint ce que vient de dire Jung, parce que si on prend uniquement le mot du dispositif, on se rend compte qu'il n'y a plus d'origine. Parce qu'on s'est dit que d'accord, Kittler était passionnée par Foucault, alors elle est venue à Paris, elle a écouté Foucault et s'est dit, c'est un bon concept, je vais le traduire en allemand, mais bon, finalement, je ne vais peut-être pas le traduire, je le prends en tant que tel. Donc, le dispositif français est devenu un néologisme en allemand, dispositif, complètement nouveau, personne ne connaissait ce mot. Aujourd'hui, c'est complètement familier, mais c'est un principe en néologisme inventé par Kittler pour traduire quelque chose que Foucault lui-même avait traduit d'un mot allemand, qui est le mot Gestell, de Heidegger. On pourrait développer ça plus, mais on peut le tracer, l'argumenter, et on peut comprendre que l'intérêt originel de Foucault était de trouver un mot nouveau pour quelque chose qui, lui, l'a inventé, qui est cet ensemble technique des pratiques de savoir, et l'a trouvé chez Heidegger. Et donc, il n'a pas pris Gestell, parce que quand même, ça fait bizarre. Alors, il a traduit le mot Gestell vers le français, en introduisant le mot dispositif, qui est finalement donc une traduction, et Kittler l'a repris. C'est à mon avis, il savait très bien quelle tradition. C'est un geste très, très paradoxal qu'il faudrait, que je n'ai pas encore complètement compris, le geste de Kittler, parce qu'en traduisant ce livre, ce terme, ce concept, il l'a traduit et pas traduit, il a gardé une part d'étrangeté qui peut nous rendre peut-être méfiants, peut-être qu'il voulait, c'est comme une trace ou une espèce de flèche pour marquer, regarder quand même l'origine de la chose, mais d'une manière très détournée. Voilà. Il a à la fois affirmé et dissimulé l'héritage de ce concept. Ça, c'est très intéressant. Je trouve, en tout cas, ça, c'est vraiment un noyau pour raconter une histoire, une partie d'une histoire. Des transferts et contre-transferts théoriques très intéressants. Et si là, on pourrait élargir encore par le biais que tout ça a pris par les États-Unis, parce que la médiathéorie, c'est ce qui est intéressant, que la médiathéorie n'a jamais pris pied en France. Peut-être que maintenant, ça vient un peu, mais ça a pris donc très longtemps, parce que la médiathéorie, c'est dans les années 70 que Foucault a écrit son grand livre, Aufschreibesystem, aussi un concept complexe. Mais tout ça a pris tout un chemin par les États-Unis, et la media theory est devenue extrêmement importante et très puissante, aussi institutionnellement très importante en Allemagne et aux États-Unis. Voilà, si on voit tout ça, ça devient complexe et intéressant, et on voit pourquoi les concepts, autant que les phrases et autant que les livres et autant que nos langues, sont toujours déjà traversés par plusieurs langues. C'est impossible de faire abstraction finalement de la question de la traduction. On se demande plutôt comment on a pu faire abstraction pendant toutes ces décennies de cette question, ne pas la prendre en compte et faire comme si le livre qu'on a devant soi serait juste sa langue. Voilà, c'est ça.
Ce que vous dites me fait penser au travail de Barbara Cassin avec son dictionnaire des intraduisibles. Barbara Cassin qui dit que la philosophie européenne, finalement, c'est une histoire de la traduction. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bien sûr, ce travail de Barbara Cassin est très, très important. Il a beaucoup aidé à rendre visible la question. Son livre est majeur et très, très important. Et je pense que c'est... comment dire, mais c'est un point de départ certainement pour nous tous pour développer davantage la question et de peut-être à partir donc cette question du concept aller plus loin et élargir la question aux phrases, au contexte, parce que c'est très très important ce dictionnaire. Il a posé des bonnes questions et il a ouvert tout un champ, et après il est entré dans le domaine politique, donc il a ouvert d'autres champs encore dont on voit les effets seulement un peu maintenant. Donc tout ça a été très important, mais et c'est là où on entre nécessairement à nouveau un peu dans le champ poétique, c'est-à-dire on ne peut pas seulement extraire les concepts. Je pense que, je ne sais pas, dans ma réponse, je crois que j'ai déjà commencé à raconter l'histoire. On se met tout de suite à raconter, à imaginer, à fictionnaliser. Et je crois que cette dimension du fictif, elle est tellement essentielle, elle est tellement importante. C'est celle-là que j'aimerais mettre en avant. Et c'est pour ça que je voudrais les nommer, les auteurs que nous avons choisis ici dans ce recueil. Ce sont Esther Kinski, Marcel Bayer, Oswald Egger et Jean-René Lassalle. Ce sont trois auteurs allemands. Jean-René Lassalle est un peu à part. C'est un poète français, mais très... il a un lien très intime à la langue allemande. Trois auteurs qui unissent ou qui font des liens vraiment très, très particuliers entre une réflexion théorique et une poésie, et qui vraiment prennent cette idée de la pluralité des langues comme point de départ de leur écriture. Et c'est ça qui était important pour moi aussi, pour voir comment, et Baïa donne des très beaux exemples pour ça, comment un seul mot soudainement ouvre à des récits entiers. Elle est un maître pour, à partir d'un mot, inventer des histoires entières. Et ce livre parle, c'est le texte qu'on a repris ici, est un texte qui parle de Conrad et de Ceylan, et très touchant d'ailleurs, surtout la partie sur Ceylan. Voilà, il prend comme ça des petits noyaux, et à partir de ces petits noyaux, il tisse des liens, il tisse des histoires. Et c'est ça que je voudrais soit fait à partir peut-être du dictionnaire. On pourrait s'imaginer une grande fictionalisation du dictionnaire, les intraduisibles, développer ces noyaux davantage, de les mettre en contexte.
Je voulais revenir aussi toujours sur le travail de Barbara Cassin, qui mettait en exergue quelquefois l'impact de petits mots. Moi, j'ai été très, très frappé concernant le mot « Überhaupt », en général, contradit par « en général » en français, et de voir comment on se dépatouille ou pas quand on traduit avec des mots qui semblent être, dont on ne sait pas forcément pourquoi ils ont été employés plutôt qu'un autre, et qui ont un impact sur les définitions des concepts. Comment fait-on quand on est face à un mot comme Überhaupt, mais il y en a d'autres évidemment.
Oui, ce sont des fameux modalisateurs que nous avons beaucoup en allemand, dans d'autres langues aussi, mais je pense que l'allemand est particulièrement riche, et ça pose des grands problèmes que chacun connaît, qui essaye de donner les cours d'allemand et d'apprendre la traduction de l'allemand. Je pense que je vais contourner un tout petit peu là, en revenant peut-être sur la question. Je trouve que l'entreprise de Barbara Cassin, quand elle attire attention sur ce problème-là, c'est une entreprise absolument salutaire du point de vue philosophique et philologique, mais puisqu'elle attire l'attention sur les problèmes clés pour une future traduction. Mais elle prive, en donnant les mots dans les différentes langues avec la définition, et encore une fois, c'est absolument utile, mais elle nous prive justement de ce plus que peut rajouter une langue vers laquelle on traduit. Francisque a donné l'exemple de Foucault, je trouve ça, et du mot dispositif, je trouve ça absolument passionnant. Je pense que quand on regarde la traduction de Freud vers le français, on trouve des mots, des concepts qui sont réintroduits ensuite en Allemagne, et puis à partir de là, peut-être dans d'autres langues. Je me souviens, c'était à la fin de mes études, non, j'ai déjà au-delà, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais quand même. Tout d'un coup, dans les sciences humaines, on parlait partout de désir, et même, et parfois, on cherchait désespérément des mots allemands. Begehren, Begierde, Begierde, ça faisait un peu trop le béguin, etc. Begehren, ça faisait un peu bizarre, mais ça apparaît, certains laissaient le désir, tout simplement, le mot français. C'était peut-être la Wunschvorstellung qui était derrière, je ne sais pas. Mais ça a produit quelque chose qui n'était pas tout à fait dans les intentions de Freud. Mais c'est ça ce qui est intéressant, ce qui se produit. Donc on a, comme l'a dit déjà Francisca, un élargissement de la théorie des transferts culturels qui font les va-et-vient et puis qui font que, comme tu l'as dit tout à l'heure, que chaque texte est déjà fait de plusieurs langues. Donc c'est ça. Donc pour revenir à Überhaupt, ça dépend des contextes encore une fois, on le traduit de plusieurs façons, de plusieurs manières, ça dépend des contextes en français. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est ce que dit chaque traducteur. Dans la pratique, ça sera ça. Après, il faut voir, quand on a affaire à un auteur comme Heidegger, quand il dit Überhaupt, il va certainement. C'est quelqu'un qui a une philosophie qui vit de l'étymologie. Et très souvent, pour moi, c'est. Il y a une certaine facilité aussi dans sa pensée qui fait ça. Donc, il creuse, il cherche dans l'étymologie le sens des choses. Donc, Überhaupt, c'est Über, sur, et Haupt, il y a la tête. Hein. Donc, on peut en faire quelque chose. Donc, dans ce cas-là, il faut y penser. Mais Überhaupt, c'est tout simplement d'ailleurs aussi. En allemand, ça peut être d'ailleurs, ou de Barop, et d'ailleurs, je veux te dire, je le fais remarquer, etc. Donc voilà, ça c'est un problème simple de traduction. Et le mot peut se charger d'un contenu philosophique dans un certain contexte chez certains auteurs, oui. Et donc on a raison de le dire, de le signaler, mais on ne peut pas donner une précepte ou une recette qui vaudrait pour toutes les traductions.
D'accord. Heidegger, qui était aussi un tenant de la supériorité de l'allemand en tant que langue sur les autres, hein, qui a tenté de l'affranchir aussi du grec, hein, en forgeant de nouveaux concepts.
Oui, bon, heureusement, notre ami Georges-Arthur Goldschmidt n'est pas ici, parce que ça le fait grimper au rideau. Cette idée d'une supériorité philosophique d'une langue par rapport à une autre, je trouve que c'est une aberration complète. Et c'est une preuve de la méconnaissance qu'avait Heidegger des autres langues. Croire que l'allemand est une langue hyper développée, c'est bon. Oui, c'est une belle langue. Mais regardons les langues rares, rarissimes, à peine codifiées, qui sont d'une complexité énorme. Hein. Certaines langues africaines ont 6 ou 7 façons de dire « je », parce qu'il faut toujours dire « par rapport à qui »,« où je suis ». Ça, c'est très détaillé et on peut dire peut-être plus philosophique pour être au moins plus précis pour expliquer certaines choses. Donc je trouve que c'est une idiotie. Il n'y a que l'allemand pour exprimer la philosophie de Heidegger. Oui, peut-être, oui. Après, on peut la traduire. Mais je m'inscris en faux contre cette idée-là. Je pense que c'est le dernier représentant d'une certaine idée née en Allemagne. Mais là, je m'avance un tout petit peu c'est un peu spéculatif. Mais je pense qu'il est un des derniers représentants d'une certaine idée qu'on se faisait de la langue allemande et son rapport au grec à partir du début du XIXe siècle. L'Allemagne vaincue par les armées napoléoniennes face à la suprématie politique de la France essayait de quelque chose pour compenser. Et il y avait une identification avec la Grèce. Le fameux temple aux grands hommes que les Allemands ont aussi construit après 1815, bon, ouvert en 1840, c'est le Valhalla. C'est un temple grec qui a les mêmes fonctions que le Panthéon de Paris, sauf que le Panthéon est romain et là c'est grec. Donc les Allemands s'inscrivent un peu dans la continuité des Grecs et ils vont refaçonner encore, ils vont donner un dernier petit coup de pouce au développement de leur langue à partir des traductions du grec. Donc de Schleiermacher pour la philosophie, qui traduit Platon, et Foss pour pour Homère. Ces deux, Schleiermacher et Foss, sont considérés par beaucoup comme ceux qui parachèvent en quelque sorte l'œuvre de Luther dans une entreprise commencée au XVIe siècle et poursuivie au XVIIe siècle, c'est-à-dire de faire de l'allemand une langue littéraire et qui peut concurrencer avec les autres. Je pense que ça vient de là. Donc une suridentification avec le modèle grec et puis après se prendre pour le seul tenant digne de rentrer dans la succession des Grecs. Je trouve ça... Très franchement, je trouve ça assez ridicule. C'est faible comme idée.
Et il y avait aussi cette volonté de cette opposition par rapport aux Français dont vous m'avez parlé.
Pour Heidegger, peut-être, oui. Ouais. Oui. Mais de toute façon, voilà, il y a ça. Il ne faut pas sous-estimer ça. Dans l'histoire des idées allemandes, pas pour tous, mais dans l'histoire des idées en Allemagne au XIXe siècle, comme dans l'histoire politique tout simplement de l'Allemagne, il ne faut pas sous-estimer l'ingrédient français ou anti-français.
D'accord. Francisca Monfres, qu'est-ce que vous pensez de cette question ?
Je crois que pour cette question, c'est dit. J'ai rien à ajouter vraiment à cette question de la supériorité de la langue, qui évidemment nous semble dépassée. Elle n'a aucun intérêt en elle-même, sauf si on a des idées politiques. Idéologique. Je pense que... Non, j'étais en train de réfléchir encore aussi des autres questions que vous avez posées et de cette... Ce livre est un livre qui s'est fait dans un contexte franco-allemand avec le soutien d'une fondation qui est la Fondation Bosch, qui a sa propre histoire. Et ce que tu viens de dire, c'est une histoire complexe. Il y a d'autres personnes qui savent beaucoup mieux parler de cette question de comment, entre la France et l'Allemagne, il y a un jeu de miroir très compliqué. Un autre exemple, c'est encore tiré de la littérature, mais quand même et serait Anne Weber avec ses livres qui se placent tout à fait dans cette idée-là, qu'il faut cette rivalité et amour entre ces deux pays qui a créé quelque chose d'assez unique. Et d'une certaine manière, probablement, ce livre s'y place aussi. C'est un commentaire aussi, peut-être, d'une certaine manière là-dessus, même si ce n'était pas du tout pensé comme ça, mais implicitement. Et je me rends juste compte, là, ce soir, que pour moi, personnellement, la traduction a été tout d'abord une expérience qui a déstabilisé mon propre rapport au savoir. Premièrement, c'est venu au moment de ma thèse. Et après, je crois que quand on est passé par ce moment de la traduction et de l'éloignement de sa propre langue, et aussi du fait que après le rapport à la théorie n'est plus le même, on ne peut plus revenir d'une certaine manière. Quelque chose a changé. Ça, c'était une expérience. Et l'autre expérience est celle de se demander, c'est traduire vers une autre langue et tout d'abord toujours un travail sur son propre rapport à sa propre langue. Et donc à sa propre histoire et sa situation par rapport à l'histoire, la grande histoire et la petite histoire. Et donc, c'est sûr que c'était aussi, et chez Marcel Bayat d'ailleurs, c'est très explicite, c'est Marcel Bayat qui est connu en France pour son livre « Voix de la nuit », qui est un livre assez fascinant et très particulier sur le technicien qui a fait les derniers enregistrements dans le bunker de Hitler et son entourage. C'est aussi une histoire de traduction d'une certaine manière, c'est-à-dire de la voix et sa transmission. Donc l'histoire et son discours sur... Il a reçu un prix littéraire très important qui est le prix Büchner. Et son discours qu'il a tenu à cette occasion est absolument important. Et Stakhinsky, de la même manière, est travaillé par cette question, par la charge... C'est par les crimes commis lors de l'histoire allemande. Tout ça est dans le livre, tout ça se transmet quand on traduit. Et je crois que voilà, ça me semble important. On ne peut pas parler de. Parce que c'est sous-entendu quand vous posez cette question de la supériorité de la langue. Alors, pour le rendre explicite, évidemment, c'est un travail là-dessus qui ne cesse jamais. Voilà.
D'ailleurs, vous préférez parler de traduire plutôt que de traduction. Il y a cette question de l'action aussi, du cheminement vers une traduction idéale qu'on n'atteindra jamais. J'ai l'impression.
Oui, 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 ça reste quelque chose de jamais abouti. Donc, voilà, quand je traduis moi-même, une fois que le livre est sorti, eh bien, je suis mécontent parce qu'il faudrait encore... rajouter des choses ici. Et puis, des choses au bout de quelques années, je ne vois plus de la même façon. Je préfère traduire parce que c'est ça fait de l'activité, c'est la progression. Donc, c'est quelque chose qui est en marche. C'est pour ça, pour ne pas dire traduction.
Il y a un des contributeurs du livre, je ne sais pas s'il est dans la salle, c'est Arthur Lockman, qui s'étonne de presque oublier ce qu'il a traduit une fois qu'il a fini sa traduction. Je voulais savoir si, en tant que traducteur, ça vous arrivait d'être confronté à cet étonnement. Il revendique finalement la... qu'est-ce qu'il dit exactement? Que je retrouve exactement le propos. Il adopte la posture de l'interprète plus que du traducteur. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un et l'autre?
Oui, oui, mais bien sûr, le traducteur est interprète d'abord. C'est un homme orchestre, une femme orchestre. À partir du moment quand on a le texte, on fait un travail. Il faut s'équiper. Il faut remplir sa boîte à outils philologiques, etc. Il faut se renseigner sur l'auteur, sur le contexte, etc. Donc tout cela est un travail. D'interprète, bien sûr. Et ensuite, on met des mots dessus. L'interprète en deux sens. Donc, interpréter, donc donner du sens ou chercher le sens d'une chose et le faire voir. Mais interpréter aussi dans le sens musical. Mais après, on met ça, ça rend lisible. On peut même le lire, on peut le dire, etc. Dans les deux sens. Moi, j'aime bien lire les traductions, donc à vive voix aussi, que j'ai faites moi-même. mais dans les deux sens. Mais oui, bien sûr, interprète, c'est une traduction. C'est, on n'est pas encore les machines. C'est nous, on cherche de rentrer dans le texte, de chercher les allusions, la multiplicité des langues qui sont déjà tracées derrière. Quand Francisca a parlé tout à l'heure de l'exemple de Foucault, il y avait, m'est passé par la tête une petite anecdote que je peux placer maintenant, parce qu'après, ce n'est plus possible. Mais Jean-Pierre Lefebvre, qui est un excellent et un très, très grand traducteur de philosophie.
Alors, c'est l'un des quatre traducteurs de Goethe, hein, dans le poème de Goethe, hein, que vous citez dans votre texte, hein, effectivement.
Oui, et c'est lui qui a traduit tout seul toute la poésie allemande, l'anthologie de la poésie allemande. Il a traduit Hegel et beaucoup d'auteurs, et puis Marx aussi. Et donc, à propos de Marx, il a travaillé sur les manuscrits, et il y a le fameux mot, et qui est un concept que tout le monde utilise, qu'on soit capitaliste ou marxiste, c'est le Mehrwert. Et selon Jean-Pierre Lefebvre, Marx, dans ses manuscrits, a rajouté ce mot très tardivement. Et apparemment, avec beaucoup de plaisir, il y trouvait une valeur poétique. Mehrwert, c'est horrible, c'est un monovocalisme qui coule très bien, en quatre lettres chaque fois. Et je pense que c'est ça, donc l'interprétation aussi contre-traduit. Donc si, par hasard, on est dans la situation de traduire, de rendre par quelque chose de poétiquement équivalent, tant mieux. Très souvent, ça ne marche pas et on donne une interprétation. En tant que traducteur, mais là, je parle plutôt en tant que traducteur littéraire, on essaye d'éviter une traduction qui serait une interprétation, mais on essaye d'avoir du texte. Donc, l'interprétation n'est pas considérable. L'interprétation, c'est ce qui précède la traduction. Mais parfois, et notamment dans les textes de sciences humaines, quand il faut vraiment rendre précisément ce qui est pensé par, ce qui est visé par un concept, et bien parfois on met plusieurs mots, quelques mots en plus, pour être sûr que de rendre bien ce qui est couvert par ce concept, et on laisse tomber cette considération littéraire, purement littéraire et poétique. Mais, comme l'a dit Roman Jakobson, chaque acte de langue a aussi sa dimension poétique, et donc c'est là que traduction en sciences humaines et littéraires se rencontrent. Il y a toujours une part de fonction poétique dans un texte des sciences humaines, même s'il est très sec.
Et après, il peut aussi y avoir la tentation de la note du traducteur. Visiblement, ça fait débat parmi les traducteurs.
Oui, et c'est drôle parce que donc Arthur Lohmann, que vous avez cité, est intervenu dans notre rencontre à Cerisy sur la note du traducteur. Et il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il fait la promotion de son propre livre à Genève. Donc c'est le cas d'un traducteur en sciences humaines qui est devenu écrivain. Il écrit maintenant lui-même, il ne traduit plus. Donc un beau passage, très intéressant. Et moi, je partage tout à fait cette expérience d'amnésie qu'on peut avoir dans la traduction et que j'ai par ailleurs aussi avec les textes que j'écris. Mais c'est un passage qui entraîne, je crois, effectivement un certain oubli. C'est comme si quelque chose se travaille et est parti après pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et Arthur Lohmann, dans ce livre, apparaît dans sa fonction de traducteur, si on veut, qui va devenir donc auteur, mais en tant que traducteur de quelqu'un d'autre, qui est Hans-Jörg Reinberger. Et peut-être que je peux nommer cet exemple, qui est aussi dans le recueil, qui nous a donné son texte. Hans-Jörg Reinberger est un bel exemple pour ce volet épistémologique, sciences humaines, parce qu'il est, ou il était directeur du Max Planck Institut, donc une institution de recherche extrêmement sérieuse et importante en Allemagne. Il est biologiste, il travaille sur la biologie et des systèmes biologiques. Donc vraiment la recherche scientifique dans un laboratoire, la vraie recherche en Naturwissenschaften, en sciences dures. Mais en parallèle de cette activité de sciences dures, il était aussi poète et il était traducteur de Derrida. C'était lui qui a traduit, je ne sais pas s'il y a une traduction qui est venue ensuite, mais en tout cas la première traduction de la grammatologie vient de Hans-Jörg Reinberger ensemble avec Hans Tischler, Donc, encore un exemple vraiment fascinant de quelqu'un qui, à la fois, élabore des vrais, un vrai savoir dans le vrai sens, pas du tout équivoque du terme savoir, mais qui, en même temps, creuse ses fondements constamment, et comme si c'était une double activité qu'il faudrait maintenir. Donc, je crois que le livre essaie, d'une certaine manière, de plaider pour le double mouvement de maintenir tout simplement l'attention entre, bien sûr, construire des savoirs, c'est une affirmation de construire des savoirs, de construire des théories, de penser, d'inventer des concepts, mais de rester, je sais pas, conscient ou inconscient, je ne sais pas, mais de maintenir en même temps soi-même ce travail de la déconstruction de ce même savoir, tout simplement pour garder les choses en mouvement, pour montrer qu'ils ne sont jamais finis, ou comme tu viens de le dire, que traduire, c'est une activité. Compenser est une activité, bien sûr, mais ça devient tellement visible, et surtout, ça devient tellement vivant, c'est-à-dire tellement passionnant. C'est là où, finalement, toute la vie d'une pensée se joue. Et je trouve, on peut certainement trouver d'autres champs ou d'autres manières de rendre ça visible, mais je trouve que les traductrices, traducteurs, dans leur travail, le font d'une manière si particulière et si belle, finalement. Il y a une beauté dans cet acte de traduction qui englobe tout cela dans un seul geste. Et c'est ça que je trouve. C'est finalement un hommage aussi à ce geste.
C'est Olivier Manoni qui compare les traducteurs à des acteurs de théâtre. Le traducteur doit être comme l'acteur, habité par son texte pour arriver à en extirper tout le sens.
Oui, peut-être. Oui, on peut donner c'est une manière très performative de penser ça. Et ça peut être plus introverti aussi, mais d'une certaine manière, je pense que oui, il faut vivre quelque chose dans ce texte. Ça passe par un moment d'expérience, en tout cas. Ça, je le crois. Je suis sûre que Jean-Pierre Lefebvre, d'une certaine manière, il vit avec ses textes et il vit quelque chose dans ses textes. C'est toujours quelque chose extérieur au texte. C'est quelque chose très personnel qu'on ne peut peut-être jamais nommer. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'un jour on saura ce que c'était le petit point déclencheur qui nous a mis dans cette passion, je ne sais pas. Mais il faut, d'une certaine manière, effectivement, le vivre. Et je pense que chaque personne qui sérieusement met au milieu de sa vie, comme fond de sa vie, un travail sur la langue, en tant que traducteur ou auteur, le fait, le vit. D'ailleurs, comment sinon on tiendrait très concrètement toute la journée devant son ordinateur à traduire des textes? C'est un travail très épuisant, très, très difficile à tenir. Il faut y avoir une bonne raison. Et voilà.
La question était peut-être plus en direction de l'aspect littéraire de la traduction, effectivement, sur le fait que le traducteur soit habité par son texte et que, par exemple, je prends un exemple d'Olivier Manoni dans son texte, hein, qui cite un passage du roman de Daniel Kehlmann, avec, il imagine un personnage donc de Humboldt dans son roman, qui récite un poème en traduction espagnole, et en fait il fait un flop complet, parce qu'en fait il fait une traduction littérale, mais c'est même pas de la traduction, c'est juste de la retranscription, il n'y a pas cette traduction. Et c'est ça que je voulais dire, que j'essaie de développer dans le...
Oui, donc voilà, c'est un contexte un peu long, je sais pas, donc ça va être trop long de l'expliquer. Mais en l'occurrence, c'est une catastrophe de transfert culturel, c'est un accident majeur, voilà. Puisque effectivement, il faut s'imaginer Humboldt dans le roman de Daniel Kehlmann, Humboldt avec quelques amis indiens. Et ils descendent le fleuve, je ne sais pas lequel, ça peut être l'Amazonas.
C'était le Rio Negro.
Le Rio Negro, voilà, oui. C'est ça. Ils descendent ce fleuve et puis, bon, pour passer le temps, chacun dit, voilà, et chacun maintenant dit un poème ou chante une petite chanson qu'il connaît de sa langue, de sa tribu, etc. Et donc, Humboldt, il raconte ça, mais en prose, le fameux poème de Goethe, Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spüre es tout, etc. Donc ce poème peut-être le plus connu de la langue allemande. Donc il le dit en prose, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la forêt et qui va dire qu'il va mourir bientôt. Et là, les autres le regardent, et alors? parce que c'est la chose la plus normale, qu'on va mourir bientôt, etc. Et on se trouve dans une forêt. Bon, eux, ils vivent dans les forêts, donc rien de particulier. Donc, pour eux, le surplus, donc justement, de la traduction est complètement invisible, puisque c'est la normalité la plus plate qui apparaît là. Et donc, ce que dit le texte Kehlmann, ce que dit Daniel Kehlmann par ce texte, c'est effectivement le vrai sens des mots est aussi une fonction de leur arrangement dans la poésie. Voilà, c'est une plaidoirie pour la poésie. Comment est-ce qu'ils arrangent les mots, comment est-ce qu'ils résonnent l'une contre l'autre, quel est le choix, etc. Et ça c'est ce que dit Kehlmann. Oui, c'est très intéressant. C'est un très bel exemple.
C'était pour l'anecdote. Alors après, il y a aussi la question de l'équivocité entre les langues traduites. On peut faire un parallèle entre l'équivocité des langues qui sont confrontées dans le cadre de la traduction et l'équivocité aussi qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une seule langue. Est-ce que vous pouvez expliquer?
Oui, je pense que nous avons déjà un peu parlé de ça. Non, je cherche un exemple parce que je pense que, bien sûr, c'est. Mais je pense que Jung l'a déjà dit, je ne voudrais pas trop non plus le répéter, mais la langue, notre langue est toujours traversée par plusieurs langues. Et je crois que chacun arrive à ce point où on le ressent, c'est ce moment dans la vie où on se rend compte que le mot qu'on utilise, finalement, n'est pas un mot allemand ou français, ou je ne sais pas, quelque chose qui vient d'ailleurs. Et c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette confrontation soudaine avec l'ailleurs? Par exemple, le texte de Istakinski qui est dans le livre, qui est un extrait de son livre Le Bosquet, parle d'un de ces moments infantiles, c'est-à-dire c'est un épisode de maladie, son père qui lui lit un livre en italien, tandis que l'enfant évidemment ne parle pas du tout italien, mais bon, le père s'amuse à lui lire en italien et il y a un seul mot qui résonne, qui est altipiano. Et après la tentative de l'enfant de traduire ce mot, quoi faire avec ce mot qui reste comme une bille, comme quelque chose d'étranger, presque un objet dans sa vie. Et ce sont ces moments où finalement le familier devient étrange ou étranger qui crée une tension qui peut tout à fait être le point de départ d'une pensée, par exemple, parce que je pense que c'est le travail intellectuel finalement, il commence là où quelque chose qui semble complètement naturel, qui est juste là, finalement nous interpelle et on se rend compte qu'il y a quelque chose à creuser. C'est là où finalement la science aussi commence, la curiosité. Et ce sont ces moments, c'est l'autre exemple qui est raconté par Marcel Bayer, c'est celui de Conrad qui, les parents ne voulaient pas qu'il fasse des bêtises, qu'il parte, qu'il devient matelot, qu'il parle le monde. Alors, ils ont la bonne idée de l'envoyer en voyage avec son maître d'école. Et donc, il fait une randonnée dans la montagne. Les parents pensent que, bon, rien ne peut y arriver à la montagne. Et bon, d'accord, et peut-être que rien vraiment n'y arrive, sauf que l'enfant commence à découvrir qu'il y a plusieurs langues. Et alors, c'est raté. Il devient matelot, il parle, il devient écrivain, donc tout est caché. Mais ce sont ces moments du devenir étrange qui créent, qui sont le point de départ de tout et qui questionnent, si vous voulez peut-être en arriver un peu là, qui questionnent, et c'est ça, toute la première partie du livre, notre concept de la langue maternelle. Ça rejoint finalement aussi cette question de la supériorité des langues. Mais ce que font les textes, surtout celui d'Arno Renk, je trouve admirablement, mais aussi celui de Marco Bachera sur Goldschmidt, parce que Goldschmidt en lui-même est un excellent exemple pour cela, un exemple vivant qui vit cette question de la question à savoir quelle est finalement cette langue maternelle. Et quand nous avons échangé tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant qui était l'idée que la langue maternelle serait peut-être celle dans laquelle se transmet le plaisir ou la douleur, dans quelque chose d'affectif, et genre, c'est moi, je l'ai entendu comme ça, le bébé qui exprime ses premiers besoins dans une langue, et ça serait la langue maternelle. C'est une jolie manière de le penser, mais je ne suis pas sûre si c'est vraiment ça, parce que c'est comme dit encore une fois Foucault, finalement, c'est, on se construit une maison dans une langue. Et je crois vraiment que c'est pas non plus une c'est pas la question si on la maîtrise finalement bien ou non, comme est-ce qu'on parle vraiment correctement le français après des années passées en France, mais c'est on se réinvente à chaque fois autrement dans une langue, on crée à chaque fois un autre rapport à soi-même, à son histoire, mais aussi affectif, c'est-à-dire à ses plaisirs. Je crois qu'on vit autrement, on devient quelqu'un d'autre selon la langue qu'on choisit, qui permet, qui donne d'autres libertés, d'autres restrictions, qui met autre chose en jeu. Je crois vraiment qu'on oui, on se réinvente autrement. Et puisque ce sont des créations, oui, ma langue maternelle, c'est l'allemand. Clairement, je maîtrise mieux l'allemand que le français. Mais en même temps, cet allemand serait différent sans le français. Et ça, ce passage par le français a aussi changé ma langue maternelle. Et dans son texte, le texte d'Anne Renken porte sur Hannah Arendt. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il peut prouver, il montre vraiment en quoi Hannah Arendt est passée par cette étape et a changé sa propre langue, qu'elle est devenue quelqu'un d'autre, ou sa pensée, comment ça a pu évoluer par ce changement, dans son cas, par l'anglais. Je ne sais pas comment toi tu le...
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, je suis absolument d'accord. C'est... d'accord.
Il y avait aussi la question de la langue de la rationalité, ce qui était le statut du latin avant. Est-ce que ce n'était pas plus simple, entre guillemets, d'avoir une langue qui, pas supérieure, mais qui surplombe toutes les autres et à laquelle, à une époque lointaine, se référaient tous les philosophes en mettant entre parenthèses leur langue maternelle, finalement, pour utiliser une langue commune sur laquelle ils pouvaient tous s'appuyer pour travailler et développer des concepts.
C'est une belle idée. C'est un désir qu'on a encore aujourd'hui avec l'anglais et qui ne marchera jamais, qui n'a pas marché pour le latin et ne marchera jamais pour l'anglais, non ? Comment tu vois ?
Oui, je pense que c'est pas un hasard qu'à un moment donné, et à peu près en même temps, avec vu d'aujourd'hui, à peu près en même temps, il y avait quand même des décalages importants, mais dans l'histoire des pays de l'Europe, le latin, à un moment donné, ça disparaît au profit des langues dites vulgaires. À l'époque, c'est en France la langue officielle, la langue des actes officiels, la langue administrative devient le français au XVIe siècle. Et puis, peu à peu, ça vient de la langue littéraire par excellence, en Allemagne aussi, un peu plus tard, donc à partir du XVIIe siècle, c'est le cas, en Italie déjà avant. Et c'est aussi la découverte qu'il y a une vie et il y a une langue en dehors des séminaires des séminaires de théologie et des universités et des facultés théologiques de l'époque. Et donc le latin perd en force, même si la Sorbonne le maintient jusqu'au... Je pense qu'on pouvait encore soutenir sa thèse au début du XXe siècle en latin à Sorbonne, mais la Sorbonne est un cas à part. Mais ça, voilà, ça disparaît.
Et l'anglais n'est pas du tout en mesure aujourd'hui de se substituer au latin. Ce n'est pas en termes de langue qui surplomberait toutes les autres.
Je ne le crois pas parce que... La pluralité des langues, c'est la pluralité des visions du monde, comme l'a dit Francisca tout à l'heure. Et ça se perd. Donc ça ne dit pas qu'on ne puisse pas se comprendre entre nous, mais la compréhension, en dernière conséquence, philosophiquement parlant, elle est toujours approximative, même si je dis tiche et vous dites table. Bon, là, d'accord, mais il y a autre assonance pour moi, pour un germanophone, que pour un français. Donc on peut dire, voilà, de ce point de vue-là, il y a peut-être incompatibilité totale. Mais bon, n'exagérons pas, on trouve une intersection assez, assez importante. Mais le tout anglais est donc une perte colossale de la pluralité, vraiment la pluralité des visions des choses. Mais nous sommes en pleine absurdité, donc ce n'est pas le sujet de ce livre. On parle de la traduction et de l'importance de la traduction, mais j'ai été invité dans une soutenance de thèse sur la littérature allemande qui a eu lieu aux Pays-Bas. La thèse était écrite en anglais et les textes allemands étaient cités en anglais. Et on se demande, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore de quoi est-ce qu'on parle là
Est-ce que ça, c'est une tendance en développement
Ah oui.
Est-ce que vous vous sentez menacé en tant que traducteur
Oh, les menaces sont multiples. Hein. C'est... Il y a aussi des systèmes automatiques maintenant pour les textes d'usage qui fonctionnent assez bien, il faut dire. Non, je ne me sens pas menacé dans mon existence de traducteur, mais je sens menacé l'essence même de ce que c'est l'Europe. Voilà. Et donc un livre comme ça est là pour montrer ce que c'est l'essence de l'Europe et ce qu'on peut apporter. Je pense que ça sera la mort d'une certaine idée que nous nous faisons encore de la vie de l'esprit en Europe.
Très bien. Peut-être pour.
Ce n'est pas contre l'anglais, au contraire. Mais ce que nous appelons l'anglais, ce qu'on nous apprend ici même aussi, on organise certainement des séminaires d'anglais pour sciences humaines, pour que nous puissions au moins rédiger des résumés de nos articles en anglais ou intervenir dans une conférence internationale. Mais c'est pas de l'anglais. C'est pas de l'anglais. C'est un pidgin international que nous avons, que nous déclarons être anglais.
Très bien. Peut-être avant de conclure, dites-nous quel bilan vous tirez de cette aventure éditoriale et question un peu bateau, mais et comment vous appréhendez l'avenir de la traduction?
Ça, je ne sais pas. Je peux dire que je suis dans une autre situation aujourd'hui, c'est-à-dire je ne suis plus, je continue mon travail d'écriture ou de recherche de multiples façons, mais je suis maintenant, comme vous l'avez dit au début, au Goethe-Institut, donc je fais un travail culturel et en grande partie, je me promène dans les immeubles de la Commission européenne pour apprendre l'allemand aux membres des cabinets, ce qui est un exercice tout à fait intéressant, passionnant aussi, c'est parce que donc à des gens qui viennent de toutes les nationalités, hein, de toutes les langues maternelles aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne définissent plus une langue maternelle pour eux-mêmes d'ailleurs. Il y en a, je dis, et quelle est votre langue maternelle pour savoir vers quel dictionnaire me tourner en cas de besoin, et me disent le français et l'espagnol, peut-être l'anglais aussi. Vous voyez, et sérieusement, parce qu'ils ont grandi dans d'autres contextes, donc tout ça devient très souple, très fluide quand même. Et juste pour dire que avec le Brexit et tout ça, il y a quand même des questionnements très concrets. Je ne pense pas que l'anglais va disparaître comme langue universelle, pidgin, mais il y a quand même au moins l'idée ou la question. Prenons-nous suffisamment au sérieux l'idée qui est quand même l'idée européenne, que chacun parle sa langue. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il y a un service gigantesque de traduction qui traduit chaque texte dans toutes les langues. Voilà. Donc, ça, c'est une évolution quand même très concrète du livre, mais c'était pas du livre, mais du parcours peut-être, une mise en pratique de certaines conséquences, parce qu'il faut quand même y croire, c'est-à-dire il faut croire à l'importance de parler chaque langue dans cette entreprise et que ça ait des effets concrets sur la vie de nous tous finalement, qu'il y ait une entente au-delà de la communication, une entente plus profonde parce qu'on parle la langue de l'autre. Donc ça, c'est peut-être une chose ou un détail anecdotique. Après, sur le plan scientifique, je l'ai déjà dit, j'ai commencé un peu avec Althusser, qui était tout au départ, mais qui est aussi un peu la suite, c'est-à-dire il y aura un autre livre. Et le dernier texte de ce livre ouvre finalement au prochain, qui est en allemand, qui est une collaboration avec les archives de Marbach, qui sont des archives pour la littérature aux productions intellectuelles allemandes, germanophones, très importantes en Allemagne, et l'Institut de l'IMEC, ça me manque. Oui, édition contemporaine, excusez-moi, ça m'a échappé, les abréviations. Qui est donc un livre sur les archives. Ça s'appelle Übersetzung im Archiv, sur la place de la traduction, des archives de la traduction dans la pensée. Ça, c'est une suite logique de ce livre, parce que si on prend au sérieux le rôle du traducteur, il faut prendre au sérieux ce qu'il laisse comme trace matérielle de son travail, et ce sont en premier lieu les archives. Et il y a dans ce livre un texte de Esther von der Osten qui travaille très spécifiquement sur la question des archives sonores. Et elle donne aussi un très bel exemple qui est d'ailleurs lié à la place de Heidegger, parce qu'elle donne l'exemple d'une conférence que Gadamer a donnée ensemble avec Derrida et Lacoula Barthes. Donc c'est aussi bien sûr une histoire franco-allemande, comme toujours, sur Heidegger. Et il y a une poète écrivaine juive allemande qui est là, Hilde Domin, qui pose une question lors de ce colloque, une question qui sera effacée ensuite par la traduction écrite de cette conférence, qui tout simplement n'apparaît pas, tandis que toutes les autres questions de tous les hommes dans la salle, évidemment, apparaissent. Et c'est en se penchant vers les archives sonores, en retraçant ce chemin des archives sonores, elle arrive à rétablir la question, qui est évidemment une question fondamentale sur la place de Heidegger, que Gadamer voudrait bien un peu passer sous la table. Ce texte, donc, j'aime beaucoup ce texte, c'est pour cela que je le nomme, mais aussi parce qu'il donne donc un aperçu de la complexité de la question des archives de traduction, qui donc à la fois nous permettent de retracer le geste du traducteur, son travail concret sur les textes, mais qui donne aussi tout un tableau, encore une fois, sur les circonstances de la production d'un texte, sur ses destins, sur ce qui s'est produit autour, et sur aussi les conditions d'ailleurs socio-économiques d'une traduction, les contrats, les paiements qui ne se font pas, tout ça se trouve dans les archives manifestées. Et donc, il serait finalement une invitation à questionner le rôle de traducteur dans son statut, sa fonction d'auteur dans le système littéraire. Voilà, plein de perspectives.
Très bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, madame là-bas.
Vous parliez du traducteur qui doit être habité par son rôle, mais il y a aussi Diderot et le paradoxe du comédien qui dit que la différence provient justement de la capacité de distanciation. Et on pourrait presque paraphraser une phrase de Starobinsky sur le traducteur. En fait, Starobinsky disait « Ce que l'écrivain veut dire ne se confond jamais avec ce qu'il dit ». Donc, en poussant la logique au bout, ce que le traducteur veut dire ne se confond jamais avec ce qu'il dit. Alors, ma question sous-jacente, un peu plus sérieuse, est-ce que les théories des années 70-80 sur la réception littéraire de Hjort, de les pensées de Todorov, de Starobinsky, de Dubrovsky sont complètement passées aux oubliettes, ou est-ce que c'était quand même un des socles, ou est-ce que ça reste un des socles sur lesquels on peut encore s'appuyer dans le domaine de la littérature comparée, qui inclut la problématique de la traduction, bien entendu.
Jürgen Ritter.
C'est masse de sujets. Je ne suis pas très sûr d'avoir tout compris. Alors, l'apport de l'esthétique de la réception, d'ailleurs l'apport des écrits de Starobinsky et d'autres que vous citez aux études littéraires en général, et pas seulement à la littérature comparée, je pense qu'il est toujours, il est toujours là, il est toujours présent. Ce sont des auteurs sur lesquels on s'appuie toujours. Ça dépend, bien sûr, maintenant, des textes, des sujets qu'on traite. Maintenant, je vois mal le rapport à la traduction. Si on veut mobiliser l'esthétique de Yaos pour une réflexion sur la traduction, ça peut se faire, mais je pense qu'en combinant peut-être avec les théories du champ, comme les a élaborées Bourdieu, c'est-à-dire c'est se poser la question à partir de quel moment un certain texte arrive dans une autre langue et pourquoi il arrive dans une autre langue. Pourquoi est-ce qu'on traduit un tel auteur, un tel philosophe, dans telle langue, dans telle année ? pourquoi ça se fait en 1970, pourquoi ça se fait avec 30 ans de retard, pourquoi ça se fait tout de suite, etc. Tout cela sont des questions très intéressantes. Et là, on est dans le domaine aussi de l'esthétique de réception, c'est-à-dire il y a un horizon d'accueil favorable pour faire transiter un livre, une pensée, d'une langue vers une autre. Et on peut parfaitement travailler avec les catégories élaborées ou les appliquer, élaborées par Yaos. Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.
Mais c'est aussi la question des nouvelles traductions
que vous avez évoquées un moment. Pourquoi un moment faut-il retraduire ?
Pourquoi il faut retraduire ? Ben oui, justement, parce que c'est... Parce que la vision, l'interprétation, l'appréciation d'un auteur change. Nous avons actuellement en Allemagne une grosse entreprise menée par une seule personne d'ailleurs, de retraduction de Flaubert. Les dernières traductions, par exemple, de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale, la dernière date de 2000, donc à peine 20 ans plus tard, on en fait encore une. Parce que ça a changé. Et puis un bel exemple, pourquoi est-ce que ça a changé ? Je vous donne tout juste le titre en allemand de l'éducation sentimentale. C'est un titre qui a toujours été casse-pied pour une traduction en allemand. Parce qu'il faut éviter le mot sentimental, puisque c'est tout à fait autre chose. Hein. Ça touche à la larmoyance et des choses comme ça. Donc, éducation sentimentale, Lehrjahre des Herzens, donc les années d'apprentissage du cœur, Lehrjahre des Gefühls, les années d'apprentissage des sentiments, etc. La dernière traduction, c'est Lehrjahre der Männlichkeit, les années d'apprentissage de la masculinité. Et la traductrice, qui est une femme très intelligente, qui donne chaque fois des commentaires, et elle justifie. On ne peut pas balayer ça comme ça. Mais qu'elle ait fait donc, ce titre, tout juste pour vous dire, ça, c'est un titre qui vient à l'esprit à l'heure actuelle. Puisque la question du genre, etc., est posée. Et donc, elle trouve des raisons historiques aussi pourquoi ça peut être masculinité, parce que dans un des premiers romans d'apprentissage en langue allemande, donc le roman de Schlegel, Lutzinde, c'est un roman d'apprentissage inachevé, mais il y a un chapitre qui s'appelle Lehrjahre der Männlichkeit, donc où un des protagonistes va apprendre à devenir un homme. Mais au début du XIXe siècle, et même en pleine période du romantisme où l'égalité homme-femme et la vie du couple étaient considérées comme quelque chose d'égal à égal déjà. Donc même à cette époque-là, l'ère de Männlichkeit, ça voulait quand même dire apprendre un homme, devenir un homme, c'est-à-dire gagner sa vie, etc. Mais donc elle trouve ça et dit voilà, c'est ça. Donc Flaubert, qui s'est inspiré du roman d'apprentissage de Goethe, ça c'est sûr, Lehrjahre, d'où les énigmes d'apprentissage, donc ça se justifie. Et puis, donc, elle rajoute un peu de Schlegel et ça donne ça. Donc voilà, ça, c'est une observation, c'est pas une preuve, c'est une observation que je vous soumets pour vous dire, voilà pourquoi on retraduit. Parce que un grand éditeur allemand, ben les moindres, Hansa, sentait apparemment la nécessité de retraduire Flaubert et de le faire autrement. Non, pas seulement à cause des questions de genre, donc ce n'est pas un roman où tout est genré, maintenant c'est juste le titre, mais il y a aussi une plus grande ouverture, un plus grand courage des éditeurs à traduire Flaubert d'une manière plus, disons, plus sec, parce que Flaubert a des coupes. Proust l'a déjà dit, donc Proust a défendu le style de Flaubert qui peut parfois un peu haché. En allemand, on a toujours lissé. Donc là, c'est quelqu'un qui dit non, maintenant on fait comme ça. Donc, des tas de raisons qui expliquent pourquoi on retraduit.
Oui, par exemple, j'avais un exemple personnel. J'avais fait ma thèse sur Rousseau et sur le passage d'une œuvre d'un pays à un autre. Et un des chapitres était consacré à la traduction. Pour Demian, donc le roman qu'il avait écrit autour de sa cure psychanalytique avec Jung, avec un disciple de Jung, c'est une traductrice belge qui ne connaissait rien à la psychanalyse ou qui alors censurait, qui chaque fois qu'il y avait un mot qui la heurtait un peu comme inconscient, comme sexualité, comme elle le traduisait par Dinge, Sache, et c'était horrible. Et donc la première traduction en français donnait cette chose, la chose, au moins 5 fois par page. Donc là, c'était évident qu'il fallait retraduire. Mais je pense que souvent, c'est moins caricatural que ça, quand même.
Y a-t-il d'autres questions ? Bah écoutez, on va mettre un terme à l'entretien. Je voulais vous remercier en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Je peux peut-être juste dire, je voudrais juste remercier encore une fois toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce livre, mais pas seulement au livre, mais aussi aux rencontres donc, durant ces dernières 5 années et qui, par leur présence et par leur intelligence, m'ont tant donné et qui ont donc produit ce livre que nous avons eu l'honneur de présenter ce soir. Merci beaucoup.